Notre Dieu, on te remercie pour tous ces chants qu'on a fait chanter, tous ces chants qui nous parlent de ton amour, de ce que tu as fait pour nous, de ta souveraineté sur toute la vie, de ta volonté pour nous, pour le monde. Et Seigneur, je te prie d'ouvrir nos oreilles pour entendre ce que toi tu as donné. Merci parce que tu nous as donné ta parole. Par ta parole, tu nous enseignes. Alors, je vais vous proposer de tourner vos Bibles dans 1 Pierre, où nous allons parler de la joie dans la souffrance. C'est le message, un des messages de Pierre, dans sa première épître. Et on va pouvoir lire les versets 3 à 12. Verset 3 à 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été prouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu? Vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Les prophètes, qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alors ce matin, je vous demande, avez-vous soif de la présence de Dieu? Avez-vous besoin de lui? Avons-nous tous besoin que Jésus demeure en nous? Si nous avons choisi de suivre Christ, cette dépendance est une réalité. D'autant plus quand nous sommes dans la souffrance ou dans la persécution. Et Pierre a écrit sa première épître en réponse à une situation de souffrance. Alors que lui-même, il est à Rome, il va écrire aux chrétiens, notamment les juifs, qui sont persécutés en Asie mineure, c'est-à-dire en Turquie, maintenant. Et c'est ce qu'on voit dans les versets 1 et 2, où il va écrire à ceux qui sont étrangers, dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et Pierre nous aide pour savoir pourquoi il a écrit cette lettre. Puisque dans 1 Pierre 5, 12, il va dire pourquoi il avait écrit sa lettre. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attaché est la véritable. Et donc, quel est le but de cet épître? De rassurer, d'exhorter, d'attester que la grâce de Dieu à laquelle nous tous nous sommes attachés est la véritable grâce. Et donc, son but, c'est d'encourager les chrétiens dans leurs difficultés, en leur rappelant la grâce dont ils bénéficient. Et c'est ce que j'espère que vous allez pouvoir vivre ce matin, de vous souvenir de cette grâce que Dieu nous a faite. Et donc, tout au long de la lettre de Pierre, la persécution va sous-tendre tout ce qui se passe. C'est pas nécessairement très explicite, c'est pas toujours rappelé à chaque fois, mais c'est quelque chose qui sous-tend la lettre et c'est quelque chose qui va sous-tendre aussi mon développement. Et donc on va s'intéresser qu'au début de l'épître de 1 Pierre, mais Pierre nous éclaire déjà, juste dans ses débuts, sur la joie que nous pouvons avoir dans l'épreuve. Et donc d'abord, Pierre va nous présenter une grâce. Une grâce. Il va nous montrer que nous sommes sauvés pour quelque chose de beau. C'est ce qu'on voit dans les premiers versets, du verset 3 au verset... Du verset 1, 3 au verset 5. Pierre va commencer en louant Dieu. Il va commencer en disant « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et je pense qu'à la lecture de cette première phrase, ça devrait être notre réponse aussi. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Et donc là, bon, on a une phrase assez longue, donc je vous propose de la prendre morceau par morceau. Donc d'abord, on nous dit que Dieu l'a fait selon sa grande miséricorde, selon son amour. Et je pense qu'on sait que Dieu, tout ce qu'il a fait pour nous, il l'a fait par amour pour nous. Mais je pense que c'est important de se le rappeler et de s'en souvenir de nouveau. Puisque s'il n'y avait pas cet amour de Dieu, il ne nous aurait pas fait grâce. Et on serait encore perdus aujourd'hui. Mais, dans sa grande miséricorde, Dieu nous a régénérés. Et donc, régénérer, c'est peut-être un mot un peu compliqué. Dans d'autres traductions, c'est traduit une nouvelle naissance. C'est tout simplement le fait que nous devenions de nouvelles créatures, des personnes transformées, quand nous choisissons d'accepter la grâce de Dieu dans notre vie. Et donc c'est ça l'action importante, c'est ça le changement de nature qui va nous faire passer de notre nature pécheresse à une nouvelle nature, et c'est cette transformation qui va rendre possible tout ce qui va suivre. Sans cette nouvelle naissance, sans cette transformation, notre espérance serait stérile. Mais comme on est une nouvelle créature, Pierre va continuer et va nous montrer toute notre espérance que nous avons. Ensuite, il dit que nous sommes régénérés par la résurrection de Christ. Et la résurrection de Christ est très importante. C'est souvent, de toute façon, par là qu'on va attaquer la foi chrétienne. Mais la résurrection est primordiale, puisque c'est vraiment le sceau qui montre que Dieu a approuvé le sacrifice de Christ. Qui montre que son sacrifice a été validé, était valide pour sauver tous ceux qui viendraient à lui. Et c'est aussi important, puisque ça veut dire que Jésus est vivant encore aujourd'hui. Il est ressuscité, et il est vivant maintenant, aujourd'hui, auprès du Père et avec nous. Nous sommes aussi régénérés pour une espérance vivante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'une espérance vivante? Cette espérance vivante, c'est tout simplement Jésus-Christ, qui est vivant, parce que ressuscité. Et donc c'est ça notre espérance, c'est ça cette espérance qui nous définit. C'est Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est vivant aujourd'hui. Nous sommes aussi régénérés pour un héritage, au verset 4. Et là encore, c'est encore une espérance, pas une espérance vivante, mais simplement une espérance. C'est en plus un héritage assez particulier, puisque d'habitude on hérite de quelqu'un qui est mort. Mais là, celui de qui on hérite ne meurt pas. Et c'est donc là qu'on revient à une grâce. Tout héritage qu'on reçoit est simplement une grâce de Dieu qui nous le donne. Et cet héritage sera sans commune mesure avec ce qu'on connaît, puisque c'est quelque chose qui sera inaltérable, quelque chose qui ne saurait flétrir, quelque chose qui ne peut se corrompre. Et dans ces cas-là, c'est un héritage qui nous durera pour toute éternité. Et enfin, cet héritage nous est réservé dans les cieux. Et réservé dans les cieux pour nous. C'est quelque chose qui nous appartient déjà de fait. Et c'est quelque chose qui nous appartient pas aux autres. Ils ont aussi leur héritage. Mais il y a quelque chose qui est prévu pour nous, à chacun. Et dans tout cela, dans toute cette espérance, dans tous ces héritages qui nous sont annoncés, nous sommes gardés par la foi, par la puissance de Dieu, pour le salut qui sera révélé au fin des temps. Et encore une fois, c'est pas la puissance de Dieu. C'est pas notre œuvre, c'est pas nous qui agissons. Mais c'est simplement par notre foi en Dieu et par son action dans notre vie que nous sommes sauvés. Et ce salut nous est tellement acquis, peut-être pas encore complètement révélé, puisqu'on est encore ici, encore dans nos corps faibles, fragiles, encore avec nos tentations et nos péchés, mais ce salut est là. Quelle grâce incroyable! Quel salut Dieu nous propose! Mais du coup, face à ça, face à toute cette espérance, il y a la question de la persécution, la question de la souffrance. Et Pierre voulait que là, on voit vraiment d'où vient notre joie. Donc, notre joie, c'est cette grâce, c'est ce salut que nous avons en Dieu. C'est ce salut pour quiconque croit. Comment ne pas être dans la joie quand on voit ce que Dieu nous a offert? Et donc, notre joie n'est pas humaine. Si notre joie n'était qu'humaine, donc forcément, quand on est dans la souffrance, dans la persécution, cette joie s'évanouirait. Mais cette joie nous vient du salut accompli par Dieu à la croix. Salut que nous avons fait nôtre quand nous avons été régénérés dans la foi. Quand nous sommes venus à Dieu en lui disant qu'on acceptait son salut pour nous, qu'on voulait se mettre à ses pieds, c'est de là que vient notre joie. Nous avons une nouvelle espérance, pas une espérance simplement humaine, mais une espérance basée sur Christ vivant, sur notre nouvelle nature. Et c'est une joie qui vient des conséquences éternelles de notre salut, le salut que nous avons déjà obtenu. Et donc c'est là que Pierre va nous parler de la souffrance. Après nous avoir écrit toutes ces raisons incroyables d'être dans la joie, face à cette éternité, à cette espérance vivante, se placent des souffrances passagères. Face à cette joie intarissable, des tristesses temporaires. Et là, on voit vraiment le contraste qu'il nous propose. On serait peut-être déjà tenté de dire, comme Paul, dans Romains 8, 18, que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Mais Pierre va plus loin, puisque comme Jacques, il voit aussi le bénéfice contre les épreuves, une fois éprouvées. Une fois rendues plus fortes, tout comme l'or qui passe par le creuset. Et tout comme j'ai dit la semaine dernière de ma présidence, c'est probablement aussi douloureux que l'or qui est épuré, l'or qui fond, qui est dans le feu, pour enlève les imperfections. Mais ce qui ressort de cette épreuve est plus beau. Et quand Jésus reviendra, les épreuves que nous avons vécues ne seront plus un sujet de tristesse, mais un sujet de gloire. Et Jésus est notre espérance vivante. Et il est vraiment la définition de notre foi. Tout tient en lui. Il est le garant de notre salut, en étant l'objet de notre foi. Si notre foi est basée en Jésus, si notre foi est tournée vers lui, alors on peut être sûr de notre foi. Et dans tout cela, nous avons la joie, parce qu'il revient, la joie parce qu'il nous offre le salut. Et donc je vous propose, de penser que la tristesse et l'épreuve ne sont pas un étau autour de la joie qui l'étouffe. Ce ne sont pas des choses qui nous empêchent d'avoir la joie, mais pensez plutôt comme un sandwich. Du coup, peut-être le pain, c'est pas la partie la plus intéressante du sandwich, même souvent celle qu'on aime un peu moins. Mais voilà, on a ce qu'il y a à l'intérieur du sandwich, et c'est ça qui est bon. Et Pierre, après nous avoir reparlé de l'épreuve, dans les versets 10 à 12, eh ben, il va revenir sur cette grâce. Cette grâce que tous nous envient. Et voilà, il va montrer toutes ces personnes qui sont impressionnées par la grâce de Dieu. Et voilà, il nous invite à être sûrs de la merveille qu'est la grâce. C'est pas pour rien que certains le considèrent comme une folie, d'autres comme quelque chose de scandaleux. C'est pas pour rien qu'elle produit la joie en nous. On peut vraiment être impressionné par cette grâce, tout comme d'autres ont été impressionnés. Puisque Pierre va nous parler de tous ceux qui ont été impressionnés par l'œuvre de Dieu. D'abord, on a les prophètes de l'Ancien Testament qui ne voyaient pas complètement le salut de Dieu. Ils entrevoyaient un peu ce qui allait venir. Mais tout en entrevoyant le salut de Christ, ils l'annonçaient. On peut penser à Ésaïe. Voilà, Ésaïe 53 qui reste un des passages les plus parlants sur l'œuvre de Christ. On peut penser à David, à Daniel, tous ces prophètes qui voyaient ce que Dieu allait faire et qui en avaient l'eau à la bouche. Ils voulaient voir le jour du Messie. Ils voulaient le voir arriver. Et certes, ils ont eu à attendre. Certaines, c'est arrivé des centaines, voire des milliers d'années après ce qu'ils avaient vu. Mais Dieu a répondu et a envoyé son Fils. Il a rempli sa promesse qu'il a faite à tous ses prophètes. Et on comprend que les hommes, les prophètes, ils voulaient le salut. Ils voulaient le salut de Dieu. Ils étaient attachés à ce qui se passait à Israël, attachés même à l'humanité tout entière. Ils voulaient ce salut. Mais c'est peut-être intéressant que Pierre ne va pas s'arrêter aux prophètes, aux hommes, mais il va terminer son passage en disant que même les anges étaient impressionnés par l'œuvre de Dieu. Même ces créatures qui côtoient Dieu, qui sont à son service tout le temps, eux aussi, ils sont impressionnés, émerveillés par l'œuvre de Dieu. Et donc, l'œuvre de Dieu, pour nous les hommes, pour chacun de nous personnellement, est vraiment quelque chose d'incroyable. Et donc, je vous invite que nous soyons dans l'émerveillement et la joie, avec ces prophètes, avec tous les hommes, les chrétiens, les hommes de foi avant nous, avec même les anges, nous pouvons être émerveillés de l'œuvre de Dieu pour nous. Et donc Pierre voulait encourager les chrétiens de Turquie dans leur persécution, en leur rappelant des merveilles de l'œuvre de Dieu dans leur vie. Et mes frères, mes sœurs, cette œuvre est la même dans notre vie aujourd'hui. Si nous avons suivre Christ, béni soit Dieu qui a fait une œuvre incroyable en nous. Et nous pouvons aussi être persécutés de bien des manières. Nous pouvons aussi être dans la souffrance, dans les épreuves. Mais Pierre nous rappelle, d'une part, que ces épreuves nous apportent un bon fruit, l'épreuve de notre foi. Mais il nous rappelle aussi que même dans la souffrance, même dans la persécution, même dans l'épreuve, nous pouvons avoir la joie à cause de l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ à la croix, l'œuvre de Christ dans nos vies régénérées, dans nos nouvelles vies, l'œuvre de Christ qui revient, celui qui est digne de notre foi et qui est le garant de notre salut. Gloire à Dieu qui a opéré une œuvre de salut merveilleuse. Je vous invite à prendre quelques instants pour méditer cette œuvre de Dieu dans l'humanité et dans notre vie. Dieu. Je te bénis pour cette œuvre merveilleuse que tu as faite en nous. Merci parce que tu ne nous as pas laissés dans l'état que nous étions, mais tu as fait de nous des nouvelles créatures par la mort de ton Fils, afin que nous puissions t'appeler notre Père. Merci.